Good Morning Business, le grand débat.
Avec Emmanuel Le Chypré, Jean-Marc, Daniel, messieurs, on revient sur la décision de la BCE de baisser d'un quart de point ses taux directeurs. Premier assouplissement depuis 2019. La question, c'est de savoir à quel rythme se fera les prochaines baisses. Christine Lagarde ne crie pas victoire sur l'inflation. Elle relève d'ailleurs les perspectives. Jean-Marc, Daniel, est-ce que la BCE est trop prudente ?
Je crois que surtout dans sa façon d'agir, elle ne donne pas assez de réflexion, d'explication de ce qu'elle fait, malgré les apparences. C'est-à-dire, Christine Lagarde l'a dit tout à l'heure lorsqu'elle a été interrogée par Laure Clausier, elle a dit on a énormément de paramètres, on regarde l'évolution des salaires, on regarde l'évolution des matières premières, on regarde... Or en fait, quand même, depuis les années 90, depuis l'indépendance des banques centrales, normalement, elles ont une règle qu'on appelle les règles de Taylor, elles affichent, c'est d'ailleurs ce que disait Trichet et Draghi, c'est ce que disait en son temps Volcker, c'est il y a quelques paramètres dont on va tenir compte, et selon ces paramètres, on va prendre notre décision. On ne peut pas tout intégrer, on ne peut pas parler de tout, considérer que tout a un impact sur l'inflation. Et donc, je pense qu'elle est trop prudente dans la mesure où les paramètres qu'elle devrait avoir sous les yeux lui incitent à avoir un taux d'intérêt qui soit plus proche de 3% que de 3,75%. Concrètement, ce qu'elle devrait nous dire de façon claire et nette, quelle interprétation elle fait de la position de l'économie dans le cycle par rapport, où est-ce qu'on est véritablement dans une phase de redressement, est-ce qu'on est dans une phase au contraire où l'économie est encore atone, est encore, mais aller au-delà, multiplier les données, dire voilà, on réfléchit, on s'interroge, on a des angoisses, et puis vous savez, le prix du jus d'orange augmente plus vite qu'on ne l'espérait, tout ça est à mon avis à la fois confus et artificiel. Donc des règles simples, une règle de Taylor, on l'applique, et conséquence, on passe à 3% et on en reste là pendant un petit moment.
Ces inquiétudes, elles viennent aussi des hausses de salaire, plus 4,7% au premier trimestre en zone euro. Elle dit que ça va être absorbé par les marges des entreprises. Emmanuel, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce qui est compliqué, c'est qu'on a l'impression que, effectivement, l'esprit de nos banquiers centraux est quand même assez embrouillé, qui sont assez perturbés par les deux années qu'on vient de vivre. C'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, au moment où l'inflation montait assez fort, une perte de confiance dans tous les modèles de prévision de l'inflation. Et donc, beaucoup des gouverneurs de la BCE se sont dit « Ah bah oui, mais alors on peut plus se fier, finalement, aux modèles de prévision. » Et ça, c'est embêtant, parce qu'il faut rappeler que, quand même, le béaba du métier de banquier central, c'est qu'il y a toujours un décalage entre le moment où vous prenez vos décisions et le moment où ces décisions ont un impact. Et donc, c'est compliqué de se baser uniquement sur des résultats empiriques qui sont les mesures de l'inflation, c'est ce qu'on appelle la data dépendance. Et effectivement, on a l'impression que la BCE, elle a du mal à équilibrer finalement quelle confiance il faut faire au modèle, quelle confiance il faut faire aux données instantanées, et que la réflexion sur finalement qu'est-ce qu'a été ce choc réellement, ce choc inflationniste, ça a été quoi réellement ? C'était un choc d'offre. Est-ce que les chocs d'offre se transmettent de la même façon que les chocs de demande, etc. Et donc, on a l'impression, effectivement, compte tenu de ce flou et de ne plus trop savoir à quels indicateurs se fier, bah, qu'on a une prudence qui est quand même extrême. Et là, je suis assez d'accord avec Jean-Marc. C'est vrai que la prudence pour dire attention, l'inflation, c'est pas sûr que ça ralentisse tant que ça, etc. Moi, je pense qu'effectivement, on a quand même des bonnes perspectives sur un ralentissement de l'inflation. Je pense que l'évolution des salaires, elle est assez documentée. On voit bien que, oui, il y a des tensions sur le marché du travail, mais oui, on voit bien que les augmentations de salaire, c'est le fruit de la vague d'inflation passée qui se répercute avec retard et qui va s'amortir progressivement. Donc, moi, je trouve qu'il y a un peu de prudence excessive, sans doute. Et encore une fois, l'autre chose dont il faut tenir compte... Et ça renvoie à la question de l'objectif d'inflation, notamment, qui reste sur les
2%. Ouais.
C'est parce que quand même, il faut rappeler qu'avant Covid, on était sur un rythme d'inflation de 1% et que la BCE s'acharnait à vouloir mettre une inflation à 2%, ce qui n'a jamais marché, à part créer des bulles financières. Mmh. Finalement, donc le bilan de ces 2%, il n'est pas très bon. Est-ce qu'il faut remonter la cible, sachant qu'on va vers une base de coûts de l'économie mondiale plus élevée, avec la transition écologique, le vieillissement démographique, les relocalisations, etc. Donc ça, c'est des réflexions qu'il faudrait avoir, mais qui ne me semble pas qu'on soit en train de mener.
Jean-Marc, est-ce qu'il faut remonter la cible d'inflation aujourd'hui fixée à 2%?
Oui, non, je pense pas. Je pense même qu'à 2%, c'est scandaleux. C'est-à-dire que normalement, 2%, ça veut dire qu'on va vous voler tous les ans 2% de votre pouvoir d'achat. c'est absolument invraisemblable. Quelqu'un qui est là pour lutter contre l'inflation, il n'est pas là pour être complice du vol de votre pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs un des arguments que mettent en avant un certain nombre de gens sur l'histoire des crypto-monnaies, sur argument pour une fois avec lequel je suis d'accord, bien que je condamne toutes ces opérations autour des crypto-monnaies, c'est de dire les banques centrales ne vous préservent pas. Les banques centrales, elles organisent la baisse de votre pouvoir d'achat. Alors, ils viennent d'où ces 2%? Ils viennent, en fait, quand vous regardez les, historiquement et tout ça, quand on a tous les travaux des années 70 auxquels je suis très attaché, d'après Emmanuel.
Trop attaché.
Mais qui ont été prolongés ensuite. L'idée, c'est quand même que l'inflation, c'est de la monnaie en excès. D'où vient la création de monnaie? Elle vient du crédit bancaire. Ce qui met de la monnaie dans le circuit économique, c'est le fait qu'une banque va prêter à quelqu'un pour réaliser un projet. Et donc, l'idée des 2%, c'est que quand vous prêtez à quelqu'un, ou bien il crée de la richesse et donc il n'y a pas de problème, ou bien il se trompe et vous avez mis de la monnaie dans le circuit, mais il n'y a pas de richesse en regard. Et donc, ce décalage entre la monnaie qui a été mise dans le circuit et la richesse qui n'a pas été créée fait une tension sur les prix. Donc, pour résumer, les 2% en économie, on appelle ça la marge d'erreur des banques. Le taux d'intérêt, le taux d'inflation admis, c'est normalement la marge d'erreur que l'on donne aux banques pour prêter à des gens qui ne créeront pas de richesse, pour créer de la monnaie qui ne sera pas efficace. Bon. Quand on regarde maintenant les débats, en fait, le véritable débat sur l'évolution du taux de référence, c'est Olivier Blanchard qui l'avait lancé. Et Olivier Blanchard était très clair, il avait dit, en fait, le véritable enjeu maintenant de l'inflation, c'est d'effacer la dette publique. Le véritable enjeu de l'économie mondiale, c'est ce stock de dette publique, notamment aux États-Unis, qui est colossal. Les États-Unis, c'est 20% de l'économie mondiale, c'est 40% de la dette publique mondiale. Donc, ce que disait Blanchard à l'époque, il dit qu'il faut remonter à 4%, parce qu'avec 4%, l'inflation, ça nettoie la dette. C'est de grandes choses. L'inflation, c'est un transfert systématique qui va détruire l'épargne du créancier et alléger les contraintes du débiteur. Donc, on détruit la dette publique. Donc, je pense que la vraie question sur la cible d'inflation, c'est est-ce qu'on a comme seul élément de capacité à détruire la dette publique, l'inflation. Est-ce que comme seul élément qu'on a de capacité à retrouver une certaine forme de gestion publique, de gestion des finances publiques saine et équilibrée, de détruire le pouvoir d'achat de la population? C'est ça la vraie question.
Emmanuel,
et
donc,
moi je suis pas d'accord avec Jean-Marc là-dessus.
Emmanuel.
Je suis pas du tout d'accord avec Jean-Marc là-dessus. D'abord, parce que, alors, c'est vrai qu'il y a une obsession chez les économistes qui est cette idée d'essayer de déterminer, mais c'est quoi le niveau d'inflation optimal. Alors, il y a eu des dizaines de travaux au cours de toutes les générations. Et c'est vrai que Jean-Marc a raison. C'est au début des années 80. En fait, il y a eu la réflexion concomitante finalement une banque centrale efficace. C'est une banque centrale indépendante qui s'appuie sur des objectifs assez simples pour ancrer des anticipations d'inflation qui vont permettre au marché de fonctionner à peu près normalement. Le consensus est tombé sur cet objectif de 2%. Je suis pas du tout d'accord. D'ailleurs, Jean-Marc le dit sur la marge d'erreur. Oui, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, 2%, c'est en moyenne. Mais si vous aviez 0% d'inflation, si vous prenez l'ensemble de tous les secteurs de l'économie, ça veut dire qu'il y a là-dedans des secteurs qui sont en déflation, et on sait très bien que, grosso modo, ça grippe complètement le fonctionnement d'une économie. Donc, grosso modo, le niveau de 2%, c'est le niveau, finalement, qui met assez d'huile dans les rouages de l'économie pour qu'elle fonctionne, sans risquer de se gripper, parce que c'est un 2% moyen que vous ne pouvez pas avoir le même niveau d'inflation dans tous les secteurs, parce qu'il y a des chocs que subissent les uns et pas les autres, des pénuries de demandes ou des excès d'offres, etc., que subissent les uns et les autres. Donc, c'est le bon niveau, grosso modo, pour que l'économie fonctionne à peu près. Et la leçon des travaux académiques, même si beaucoup ne sont pas d'accord, en gros, les débats aujourd'hui, c'est quoi? C'est est-ce qu'on change de référence? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne prend plus une cible d'inflation à 2%? Est-ce qu'on prend, par exemple, un objectif d'inflation du PIB nominal, en valeur? Et à ce moment-là, on se dit, est-ce que c'est 5%, etc.? Ou bien, est-ce que on garde ça? Mais la leçon qu'il faut retenir, c'est que cet objectif des 2% d'inflation, il ne doit pas être immuable. Il n'y a rien qui dit que c'est un objectif permanent et parfait. Donc, ça dépend de la conjoncture économique. Et si, effectivement, il faut considérer qu'aujourd'hui, ce qui est bon pour l'économie mondiale, c'est une inflation un peu plus élevée, parce que, notamment, ça permet d'éponger un peu les dettes, bah, peut-être qu'il faut en arriver là.
Alors, justement, ce qui est bon pour l'économie, est-ce qu'un euro qui pourrait baisser, c'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle, Jean-Marc?
Non, l'euro qui baisse, ce serait une mauvaise nouvelle. Il faut voir que, alors, on a parlé de la démographie. La démographie, ça génère pas de l'inflation, mais la démographie, ça génère de la disparition de production. Quand vous avez que des vieux, vous produisez pas. Et on a un modèle, une référence, je ne sais pas si c'est un modèle, mais en tout cas c'est une référence, et pour moi c'est un modèle, c'est ce qui s'est passé au Japon. Le Japon, quand il a senti, quand il a vu qu'il allait avoir une baisse de sa population, vous avez que deux solutions dans ces cas-là, vous cherchez du travail, soit en faisant venir du travail sur votre territoire, soit en achetant des usines à l'extérieur de votre territoire, vous allez avoir des jeunes qui vont travailler pour vous. Le Japon a fait le choix clair et net d'exporter de l'épargne. Donc le Japon a mené une politique d'appréciation de ton taux de change qui fait que $1 valait 75 yens au moment où ils ont commencé à exporter considérablement leur épargne. Maintenant, $1, ça fait 150 yens, c'est-à-dire que les Japonais paient leur retraite avec des dollars qu'ils récupèrent sur les placements qu'ils ont effectués à l'étranger. L'Europe est dans la même situation. L'Europe, c'est 20 ans, c'est le Japon d'il y a 20 ans. Donc il faudrait qu'il y ait 1 euro égale 1,4 dollars pour acheter systématiquement des usines.
Mais Jean-Marc, le yen aujourd'hui, il est extrêmement bas.
Mais justement, il est bas parce qu'ils ont fait l'opération d'achat des usines. Et maintenant, en amont ouais. Et maintenant, ils bénéficient du retour sous forme de dividendes qui viennent de ces usines. Ce qu'ils ont acheté, 75 yens, 1 dollar égale 75 yens, maintenant, ça vaut deux fois plus cher par rapport à leur patrimoine. Et donc, ils ont des dividendes qui sont multipliés par deux grâce à cette stratégie de change. Donc là, on est dans la phase où il faut acheter les usines, il faut exporter du capitaux, on a un certain niveau d'épargne qui est assez élevé en Europe, il faut utiliser cette épargne. Ce qui plombe ça, c'est la France, mais l'Allemagne qui est en excédent pourrait, si elle avait encore le marque, elle pourrait acheter énormément d'usines, sachant que là aussi, Mme Merkel avait dit il y a une dizaine d'années, au stade où nous en sommes, ne nous faisons pas d'illusions, ce sont les Turcs, avait-elle dit, qui paieront nos retraites. Le véritable enjeu, c'est de savoir si les Turcs travailleront dans des usines en Allemagne ou dans des usines en Turquie dont nous serons les propriétaires. Et si nous devons être propriétaires d'usines en Turquie, il faut qu'on les achète sur la base d'un taux de change apprécié. Ouais. Donc je pense que le véritable enjeu maintenant sur le taux de change, c'est d'avoir une logique d'épargne et pas une logique d'exportation.
Emmanuel, d'accord ou pas avec la théorie de Jean-Marc ?
C'est surtout la vision de l'économie de Jean-Marc qui est absolument terrifiante. C'est-à-dire qu'en gros, la vision de l'économie qu'a Jean-Marc, c'est prenons tous joyeusement la route pour l'EHPAD économique. Mais et voilà.
C'est pas une vision, c'est un constat.
C'est pas ça, Jean-Marc, qui fait.
C'est un constat.
Ça, c'est un constat qui est purement un constat théorique et un constat financier. Mais ça n'est pas avec ça que vous allez faire vivre un pays. Ça n'est pas avec ça que vous allez faire nation. Ça n'est pas avec ça que vous allez avoir des projets.
Il n'y a pas de jeunes. Je ne vais pas dire c'est une vision dramatique. C'est une vision réaliste. Mais il n'y a plus de jeunes en Europe.
Sauf qu'il y a toujours des jeunes qui vont vouloir travailler, qui vont vouloir entreprendre, et que vous ne pourrez pas, si vous voulez, vivre comme ça, comme un rentier pour plusieurs générations encore. Donc non, je pense qu'il faut effectivement préserver notre capacité d'épargne, mais en même temps, il faut aussi qu'on ait une compétitivité qu'on n'a plus, qu'on a perdu, et il faut que effectivement on retrouve ce souffle.
Et la transition est toute trouvée. La compétitivité avec la note de la France qui est dégradée par S&P en fin de semaine dernière. On passe de double A à double A moins, perspective stable. Aucune conséquence sur les marchés. Est-ce que c'est rassurant ça?
Oui, mais c'est rassurant parce que ça prouve que les marchés ont compris que les agences de notation étaient... c'est vraiment la bouche du coche. Hein. C'est on s'agite autour de l'économie, on vibrionne.
Bon, c'est de l'air, quoi.
Alors là, c'est vraiment... Là aussi, c'est comédiante. Et puis, tel que c'est parti, je pense heureusement que ce ne sera jamais tragédiante avec les agences de notation.
Emmanuel.
Oui, c'est vrai qu'elles ont quand même un pouvoir d'influence qui a beaucoup, beaucoup baissé. Et puis, je pense que au-delà de ça, il y a effectivement une espèce d'insensibilité au niveau de la dette, qu'on se dit que finalement on arrivera toujours à la rembourser quoi qu'il arrive, et que ça n'est pas aujourd'hui un sujet de préoccupation. Il y a un équilibre, alors pour le coup, puisque Jean-Marc dit qu'il faut aller investir l'épargne, il y a beaucoup d'épargne, et effectivement le fait que vous ayez un rapport entre qu'il y ait une surabondance d'épargne aujourd'hui, bah fait que vous pouvez tenir tous les bons raisonnements que vous voulez sur la bonne gestion des finances publiques, dès l'instant où vous trouvez des tas de gens qui sont prêts à financer vos déficits.
Je voudrais corriger ça, il n'y a pas une surabondance d'épargne, on manque d'épargne en France. Quand vous avez un déficit, voilà.
Non, mais à l'échelle mondiale, Jean-Marc. À l'échelle mondiale, il y a un excédent d'épargne.
Mais non, à l'échelle mondiale, on manque d'épargne, puisqu'on manque d'investissement, donc on manque d'épargne. Véritable enjeu, effectivement, de l'échelle mondiale, ça va être de reconstituer son épargne.
Non, on manque pas d'épargne, Jean-Marc, on manque de projet.
on manque d'épargne parce qu'on est en train de vieillir, et donc face à ça, il faudrait effectivement avoir énormément d'épargne pour investir, pour faire la transition écologique, pour faire la transition climatique et tout ça. On manque d'épargne au niveau mondial et singulièrement en France. Je rappelle, rien qu'en France, hein, le taux d'épargne est de 17%. Dans les années 60, en pleine période des 30 glorieuses, le taux d'épargne était de 25% et les finances publiques étaient équilibrées. Là, on a 17% d'épargne et il y a déjà 5% de déficit budgétaire qui détruit une partie de cette épargne. Donc, il faut faire un effort sur l'épargne.
Plus d'épargne pour Jean-Marc, plus de projets pour Emmanuel. Merci beaucoup, messieurs.